La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans La Science s'amuse, la croisière scientifique coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier. Et qui n'a jamais rêvé d'une croisière sur le Nil ? Ça tombe bien puisque c'est là-bas que nous partons aujourd'hui, et plus précisément sur le site de la nécropole royale de Tanis, au nord-est de l'Égypte, en plein delta du Nil. Notre invité connaît bien ce site et connaît surtout les tombeaux des pharaons Osorkonde II et Psousénès, pas facile à dire. Vieux de près de 3000 ans, ces tombeaux subissent une détérioration due à la salinisation de leurs parois, avec comme conséquence une altération de la pierre et la disparition progressive des gravures et des peintures. Sa mission, en partenariat avec le Louvre et l'Institut français des Antiquités orientales, est d'identifier la nature hydrologique et hydrogéologique de cet environnement pour mieux comprendre ce processus de salinisation et tenter de l'enrayer. Il est chercheur au laboratoire Hydrosciences Montpellier. Nous accueillons aujourd'hui Séverin Pistre. Bonjour Séverin.
Bonjour, ravi d'être ici.
À mes côtés pour creuser cette interview, la journaliste scientifique Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie, bonjour Séverin.
En seconde partie d'émission, vous retrouverez comme chaque semaine le reportage dans la salle des machines et nous vous emmenons à Géosciences Montpellier à la rencontre de Christophe Nevado, son métier litho-lameleur. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr la chronique La bouteille à la mer. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Séverin Pistre, pour commencer, on va vous demander de nous faire voyager un petit peu. Vous êtes allé sur le site de Tanis combien de temps et à quoi ça ressemble ?
Alors, je suis allé quatre fois, j'ai eu quatre missions sur le site de Tanis. Alors, l'environnement est tout à fait prodigieux, je dirais, parce qu'on est dans le delta du Nil, qui est bien irrigué donc, par les bras du Nil et puis les canaux qui ont été creusés. Donc, c'est un environnement qui est très verdoyant. Et puis finalement, le site, c'est une énorme dune très aride sur laquelle il y a des gros blocs, des obélisques, des colosses qui sortent la tête du sable. Et c'est la première fois où on pénètre sur ce site, c'est assez fantastique. On a l'impression de se retrouver dans Indiana Jones et le Temple Maudit, ou des choses assez spéciales.
J'imaginais Tintin, moi. Est-ce que ça ressemble, on a l'image des pyramides, là les tombeaux, on n'est pas face à des pyramides.
Non, on n'est pas face à des pyramides. Les tombeaux étaient des salles, je dirais, dans lesquelles il y avait des sarcophages recouvertes par d'énormes poutres. Quand je dis énormes, c'est vraiment, ça questionne, parce que c'est d'énormes blocs de granit de plusieurs dizaines de tonnes qui ont été ajustés les uns aux autres pour constituer le toit de ces tombeaux. Et le tout était enterré. Donc c'est tout à fait étonnant de voir ces constructions. Et tout de suite, on se questionne évidemment sur les moyens de transport et de manipulation de ces blocs, au même titre que les pyramides. Mais c'est moins spectaculaire, évidemment, que c'est les tombeaux en eux-mêmes. Par contre, le site de Tanis a révélé bien plus, par exemple, d'obélisques que d'autres sites en Égypte. Donc il est spectaculaire de ce point de vue-là.
Et donc, ces deux pharaons, Osorkonde II, donc vous n'êtes pas égyptologue, mais ces deux pharaons, donc Psousénès et Osorkonde II, on les connaît pour quelque chose en particulier ou...
Pas vraiment. En fait, à cette époque-là, il y avait pas mal de dissensions en Égypte, d'après ce que je sais, et finalement, il y a eu une sorte de séparation entre l'Égypte du Sud, la haute vallée du Nil, et puis l'Égypte, le Delta. Et donc, la nouvelle, ces pharaons, Psousénès, a installé la nouvelle capitale de l'Égypte dans cette partie-là du Delta, mais finalement n'a régné que sur le Delta. Les prêtres ont gardé la main sur la haute vallée à cette époque-là.
Et donc votre mission à vous sur ce site, on l'a dit en début d'émission, c'était de caractériser l'environnement hydrologique et hydrogéologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces environnements ?
Alors effectivement, au départ, il y avait une problématique de conservation de ces tombes. Et un des conservateurs associés, expert au musée du Louvre, qui avait fait d'ailleurs ses études à Montpellier, à l'UM, hein, mais il y a bien longtemps, s'est dit, mais finalement, il faudrait quand même étudier justement l'eau à l'échelle de ce site. Ça veut dire l'eau, les écoulements de surface, comment, lors de pluies qui sont rares, hein, mais qui peuvent être très violentes, où vont ces eaux? Est-ce que ces eaux contribuent à la dégradation des tombes ou pas? Et est-ce que ces eaux ramassent au passage des sels qui pourraient détériorer aussi par leur chimie les tombes? Et est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une nappe d'eau en dessous? Et c'était une vraie question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nappe d'eau qui, par capillarité, selon sa position et son, ce qu'on appelle le battement de nappe, c'est-à-dire quelle est sa position en basses eaux et hautes eaux, est-ce que ces eaux ne pourraient pas atteindre ces tombes? Et donc l'environnement hydrologique, hydrogéologique, c'est l'ensemble des caractéristiques finalement des nappes d'eau, des circulations de surface, avec derrière la problématique de la détérioration des tombes, en l'occurrence.
Voilà. Et donc du coup, quand vous arrivez sur le site, c'est votre hypothèse de travail, quand vous voyez que les tombes sont abîmées par le sel, vous vous dites tout de suite, il doit y avoir une nappe d'eau salée en dessous qui remonte et qui dégrade les
oui,
sites.
Oui, parce qu'en fait, de part et d'autre, c'est une énorme dune en fait, hein, et donc les pharaons de l'époque s'étaient installés justement en position élevée parce qu'il y avait cette dune qui sortait par rapport à la plaine du Nil qui évidemment a une altitude très faible. Et donc ils s'étaient installés, notamment les temples, en hauteur pour être visibles. Et puis ils avaient en plus fait une enceinte autour fortifiée pour protéger les temples. Mais l'hypothèse c'est ça, c'est de se dire mais finalement puisque cette dune est composée de sable, donc ce sable est perméable, tout autour on a des canaux. Et donc cette eau des canaux doit pénétrer à l'intérieur de la dune. Et mon idée c'était de savoir effectivement où était cette nappe par rapport aux tombes, et essayer de calibrer en termes d'altitude vraiment où sont les tombes, où est la nappe et quelle est la qualité de l'eau de cette nappe. Voilà.
Alors quand on lit vos comptes rendus de travaux, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que vous lisez clairement dans le sable. comment pour nous, un grain de sable ressemble à un grain de sable. Donc comment vous faites? Qu'est-ce que vous voyez dans le sable?
Alors, pour cela, ben, effectivement, les missions servent à ça, c'est-à-dire essayer de récolter des échantillons et les analyser, essayer de distinguer à l'échelle de cette dune différents types de sable. Alors finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Finalement, on trouve un sable jaune, qui est très caractéristique et qui date, c'est sur ce sable-là que s'étaient installés les pharaons. Voilà, c'est ce qu'on appelle, là-bas on parle de Gezira, c'est le terme pour nommer ces énormes dunes qui sortent là en relief dans le delta. Et puis par-dessus, il y a un sable plus marron qui vient recouvrir le tout. Et quand on l'observe au microscope, on s'aperçoit que ce sable est nettement plus fin et plus argileux. Et donc en termes de comportement hydrologique, quand après on fait des tests par exemple d'infiltration, pour faire simple, on s'aperçoit que le sable jaune est très perméable à l'eau, et c'est là-dedans qu'il y a la nappe d'eau finalement. Et le sable marron, lui, est très imperméable, et c'est sur ce sable-là que l'eau de pluie peut circuler et peut ruisseler énormément et dégrader aussi le site. Donc juste en faisant du terrain, en essayant de... Justement, en se servant des fouilles faites par les égyptologues, qui, eux, vont gratter cette dune pour accéder à des vestiges, on peut accéder, finalement, à ce qu'on appelle des coupes et analyser le sable depuis la surface jusqu'à des profondeurs de quelques mètres. Mais c'est suffisant pour observer tout ça.
Et justement, quand il s'agit d'aller la chercher, cette fameuse nappe phréatique, pour vérifier votre hypothèse, vous utilisez des appareils, notamment des piézomètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un piézomètre ?
Alors, en hydraulique, la piézométrie a une définition très spéciale. C'est finalement le niveau de l'eau quand il s'équilibre avec la pression atmosphérique. En gros, c'est quand on fait un trou, en l'occurrence dans la nappe d'eau, un forage, le niveau que l'on observe, qu'on peut mesurer avec un appareil depuis la surface, finalement, on a un appareil qui, c'est une petite lampe qui s'allume quand deux électrodes touchent le niveau de l'eau. Et on sait à quelle profondeur, dans le forage, on a le niveau de l'eau. Si on a la bonne altitude du forage, on peut en déduire la bonne altitude de la nappe d'eau. Et donc, on peut faire comme ça des cartes de la nappe d'eau à l'échelle du site que l'on étudie. Et ça, c'est extrêmement précieux comme analyse parce que, comme vous le savez, l'eau s'écoule depuis des points hauts vers des points bas. Et c'est pareil pour les nappes d'eau. Hein. C'est pas, sur une table, c'est le cas. Si on penche la table, ben c'est pareil pour les nappes d'eau. Et donc, à partir de là, si on a quelques points de mesure comme ça, et par chance, sur ce site-là, il y avait eu une tentative de il y avait eu un projet égyptien qui avait permis de faire quelques forages, alors certains étaient complètement bouchés de sable parce qu'ils ont été abandonnés, et puis d'autres avec quelques efforts ont pu être ouverts. Personne ne les avait utilisés en fait depuis des 10 ou 15 ans. Et donc, à travers ces forages, il a été possible de mesurer cette fameuse piézométrie, de faire une carte de la nappe d'eau. Et à partir de là, on peut savoir vers où s'écoule l'eau, comment cette nappe est alimentée, et de comprendre un peu le fonctionnement de cette nappe. C'est extrêmement précieux.
Et une fois que vous avez cette fameuse carte de la nappe, est-ce que vous avez été prélever des échantillons d'eau pour voir si elle était salée, si c'était elle qui pouvait être responsable de la dégradation ?
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'une des particularités en Égypte, c'est qu'il est extrêmement difficile d'amener du matériel. Sinon, il faut des autorisations, c'est très très lourd. Et on ne peut pas ramener d'échantillons. Zéro échantillon. Donc ça, c'est extrêmement délicat pour nous, parce que j'aurais bien aimé ramener effectivement dans mon laboratoire des échantillons d'eau. Alors déjà, il a fallu bricoler sur place avec des bouteilles d'eau récupérées à la décharge du coin un échantillonneur, c'est-à-dire bricoler avec des bouts de ficelle, de fil de fer, un échantillonneur. Au bout d'un moment, je suis arrivé à prélever de l'eau dans les forages.
Jusqu'à quelle profondeur vous êtes allé la chercher ?
À 27 mètres de profondeur.
D'accord.
Donc, et ces échantillons, j'ai pu les analyser avec un appareil d'abord qui est ce qu'on appelle un conductivimètre, qui mesure la conductivité électrique de l'eau. Plus l'eau va être salée et plus le courant électrique passe facilement, et donc on a une conductivité élevée. Et donc dès qu'on met du sel dans de l'eau, c'est extrêmement caractéristique, on peut déduire très facilement, même si on n'a pas la composition de l'eau, on sait si elle est salée ou pas. Et en l'occurrence, là, je suis tombé sur des eaux extrêmement salées, certaines fois proches de l'eau de mer. Voilà, donc ça, c'est extrêmement fiable comme analyse, hein. On n'est pas dans des marges d'erreur, donc il n'y a aucun problème, ça a permis. Alors, l'eau n'est pas salée de la même manière dans tous les forages, alors ça aussi c'est une caractéristique, et bon, après il faut l'expliquer, parce que de temps en temps, on a des secteurs où l'eau de pluie s'infiltre plus facilement et va diluer, alors que d'autres secteurs vont être plus salés. Ensuite, il a été possible de faire une collaboration avec un laboratoire égyptien, qui, lui, a pu venir échantillonner officiellement de l'eau et l'analyser au Caire. Parce que cette eau, moi, je ne pouvais pas la ramener. Voilà. Et cette eau, effectivement, a montré de très forte salinité en chlorure de sodium, hein, comme de l'eau de mer. Mais pas que. On y trouve aussi beaucoup de nitrates. Et ça, c'est lié à l'environnement urbain, qui n'apparaît pas au premier coup d'œil, parce qu'on a l'impression d'être dans une dune sans activité humaine récente, en tout cas, depuis les pharaons. Mais tout autour, il y a quand même beaucoup d'activités avec, il faut bien le dire, un réseau urbain qui n'est pas développé comme dans nos villes à nous, et des rejets d'eau usée qui se font directement dans les canaux, et ces canaux sont en lien avec la nappe. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de nitrates. Hein.
Et ça peut contribuer, les nitrates, à dégrader les sites ?
Éventuellement, on les retrouve dans la composition des sels, effectivement, que les conservateurs avaient récupérés sur les parois des tombes. Ils retrouvent des sels à forte composition de chlorure de sodium, hein, ça c'est du sel, mais aussi des nitrates qui peuvent effectivement venir par la nappe, par capillarité, venir se cristalliser sur la paroi des tombes.
Alors cette nappe phréatique, vous l'avez dit, elle est salée. C'est fréquent, une nappe phréatique salée, on associe plutôt ça à l'eau de source en général, mais...
Alors, oui, vous avez tout à fait raison, en général, les nappes phréatiques, au sens où on l'entend, c'est une nappe d'eau douce, hein, qu'on peut exploiter ou pas, selon leur degré de contamination, hein, parfois, voilà. Mais il existe une nappe phréatique, là, actuellement, sous nos pieds. Hein, c'est ce qui a permis l'installation de Montpellier, hein, c'est qu'il y avait une nappe dans des sables de Montpellier. Mais effectivement, quand on se rapproche notamment du littoral, ben, on a ce qu'on appelle un phénomène de biseau salé, quand ces nappes sont en contact avec la mer, et l'eau de mer qui est plus dense que l'eau douce va se glisser petit à petit sous la nappe d'eau, la nappe phréatique, et cette salinisation peut être favorisée par des pompages, c'est-à-dire si on pompe trop dans les plaines littorales, on favorise, et on peut trouver effectivement dans la plaine de Moggio, Lunel, dans certains endroits, plus on se rapproche du littoral, des nappes phréatiques salées. Mais c'est vrai que c'est des contextes littoraux en général. Alors que là, on est à 25 km de la mer, hein, à Tanis.
Et du coup, une fois que vous avez identifié l'origine du problème et des dégradations sur ces sites, est-ce que vous avez des pistes pour améliorer la conservation des tombes d'Ozorkon et de Psousénès ?
Alors, oui, Il y a plusieurs façons de gérer. Il y a une façon lourde qui consiste à démonter les tombes complètement, à mettre sous les tombes une feuille de plomb. Ça a été fait parce que cette problématique est assez récurrente en Égypte et dans d'autres sites, en fait. Hein. Mais notamment en Égypte, cette problématique de salinisation des tombes est assez récurrente. Et sur un site, ils ont décidé, mais moins important que celui-ci, de démonter les tombes, glisser une feuille de plomb et remonter les tombes telles qu'elles étaient au préalable.
Et ça, c'est efficace. Ça isole
les tombes.
Oui,
c'est assez efficace, mais c'est extrêmement lourd à tous les sens du terme, compte tenu de la taille des blocs. Voilà. L'autre option qui a été plutôt privilégiée dans ce cas, c'est compte tenu, on s'est aperçu que cette nappe d'eau était à 1 mètre de distance, finalement, ou de profondeur par rapport à la base des tombes. Et cette distance d'un mètre, c'est largement la hauteur ce qu'on appelle la frange capillaire, c'est-à-dire la hauteur que l'eau, par capillarité, est capable de franchir et les selles avec. Donc on se dit que si on arrive à rabattre la nappe, c'est-à-dire à la descendre à une profondeur plus importante, à ce moment-là, cette frange capillaire ne pourra pas être franchie par ses selles. La nappe sera trop loin en profondeur.
Mais comment est-ce qu'on peut faire pour rabattre la nappe phréatique vers
Alors, il y a plusieurs options. Une des options, c'est de pomper, de faire des dépompages tout autour des tombes. Mais ces pompages doivent être quasi permanents, de manière à ce qu'en permanence, ces tombes soient en dehors de cette frange capillaire et que les selles ne puissent plus remonter. Voilà. Mais ça veut dire quand même faire des forages autour. Ces forages doivent être bien dimensionnés et mettre en place un système de pompage permanent avec des pompes immergées qui vont évacuer l'eau. Voilà.
Vous parlez aussi dans votre rapport d'étude des modèles numériques de simulation. Qu'est-ce que c'est ?
C'est ça. Alors en fait, on développe des modèles basés sur des lois mathématiques qui vont simuler les écoulements. Et donc, on peut comme ça tester la position de ces fameux forages pour rabattre la nappe et se demander s'il en faut 4, s'il en faut 3, s'il en faut 6, quel débit. Et donc, avant d'engager les travaux, ces modèles permettent d'avoir une idée de l'efficacité de dispositifs qu'on mettra en œuvre.
Et là, vous avez proposé à des étudiants en master de faire des stages sur ce sujet pour participer à ces travaux. Comment ça va se passer ?
Alors, soit la modélisation peut se faire sur le campus d'université sans se déplacer sur site et finalement simuler cette nappe en fonction des résultats que moi j'amène du terrain. Et voilà, c'est ce qui a été fait dans le cadre d'un Master 1 notamment, mais dans le cadre d'un autre Master 2. Alors, il n'a pas pu venir sur site parce que c'est une zone qui est un peu délicate, hein, avec des risques, hein, avérés. Mais par contre, il est resté au Caire et il a pu analyser les échantillons que j'ai pu ramener du terrain et se servir de ces échantillons pour alimenter ce modèle mathématique.
Et ces fameux échantillons, vous nous aviez dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas les ramener dans votre laboratoire. Pour quelles raisons est-ce que vous ne pouvez pas les ramener ?
Alors, la loi égyptienne interdit, je pense, pour protéger essentiellement les vestiges, hein, on ne peut pas ramener des échantillons. Au départ, je pense que cette loi est destinée notamment à tout ce qui est poterie, sculpture, etc. Ce qui est étonnant, parce que sur ce site, il y a des milliards c'est impressionnant, il y a des milliards de tessons, par exemple, de poterie, etc. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas les ramener. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas ramener. Alors, j'ai fait une petite entorse à ce règlement. J'ai ramené deux petits bouts d'échantillons de sable, le jaune et le marron, pour l'analyser précisément au laboratoire. Le reste des échantillons ont été apportés au Caire. Et dans l'IFAO, l'Institut français des antiquités orientales, dispose d'un laboratoire où on peut analyser des échantillons, alors pas d'eau, mais au moins de sable ou de roche. Et ça nous a permis. Et puis j'ai fait quelques tests d'infiltration à travers des bouteilles directement sur site, et j'ai laissé le sable sur site pour pas avoir à le transporter.
Alors cette étude, elle est saluée pour son originalité. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est, on arrive à comprendre ce qui est original, mais en quoi dans la communauté scientifique elle peut surprendre en tout cas ?
Alors déjà, il est rare de trouver des nappes aussi salées déjà à une telle distance du littoral. Donc d'un point de vue purement hydrogéologique, au sens purement de la recherche, il y a déjà quelle est l'origine de ce sel. Ça c'est déjà intéressant. Et donc on est en train de creuser ce mystère avec des collègues notamment de géosciences, où on essaie d'analyser par ce qu'on appelle une analyse géochimique, c'est-à-dire précise des isotopes des sels et de l'eau. D'où vient ce sel ? Est-ce que c'est une salinisation récente par l'eau de mer récente, ou est-ce que c'est de l'eau marine piégée depuis des millénaires ? Est-ce que c'est une salinisation qui est liée à l'évaporation de l'eau sur place ? Enfin voilà, il y a plusieurs hypothèses, donc on est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce contexte, disons, de nappe d'eau qui crée des désordres sur des tombes égyptiennes, ça avait été peu exploré. Même si, je vous dis, il y a d'autres sites qui sont salinisés, mais pour l'instant, aucun de ces sites n'a été vraiment étudié d'un point de vue de la nappe d'eau. Il y a on applique des produits pour protéger les peintures ou les roches, mais finalement, on ne traite pas le problème à la base.
Merci beaucoup, Séverin Pistre, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous retrouverez sur la page de l'émission différents liens pour en savoir plus sur vos travaux. On passe maintenant à la séquence salle des machines, direction le campus Triolet et le laboratoire géosciences, avec Christophe Nevado, sa profession litho-lameleur ou litho-préparateur. Vous êtes toujours sur le 93.9 et notre émission touche presque à sa fin, mais avant, on retrouve la bouteille à la mer. La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.